C'est tellement beau, la Rhapsodie numéro 1 pour clarinette et piano de Claude Debussy, en lien avec la chronique musicale de Chantal Lavoie, chronique musique classique, mais qui va aussi parler d'art visuel aujourd'hui. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour. Contente de te retrouver, ma chère Hélène.
Bien, moi aussi, moi de même. Et vous allez parler d'une exposition qui est lancée, on en parle beaucoup dans les médias de ces temps-ci, et vous avez été au lancement.
Absolument.
Vous avez piqué notre curiosité, Chantal, avec une exposition dédiée à Berthe Veil. Qui est-elle?
Berthe Veil, et je vais vous en parler dans un instant, ce ne sera pas long. Je vais juste dire que là, on va évidemment amorcer peut-être une chronique de musique classique. En fait, je viendrai peut-être quelquefois cet été vous parler de tout ce qui se passe en musique classique. Et là, quand je parle de musique classique, j'embrasse la musique orchestrale, musique de chambre, musique baroque, opéra, récital. Il y a plein de festivals de musique classique au cours de l'été, des
concerts. Et on a des auditeurs et auditrices qui adorent la musique classique.
Oui, c'est ça. Alors, concerts dans les parcs, l'OSM, l'Orchestre métropolitain. On sait qu'Yannick fait toujours son fameux concert au pied de la montagne. Avant, on le faisait au Belvédère. Mais enfin, il y a plein de... Partout, là, en province. Alors, on va voyager beaucoup cet été au Québec,
bien
là,
oui.
Sans doute. Alors, c'est l'occasion, des fois, de faire un pique-nique avec les enfants, d'initier aussi les enfants à cette belle musique. Évidemment, tant de beauté, ça peut être méditatif, enfin, c'est des moments rassembleurs. Alors, j'avais le goût de venir t'en parler cet été et puis en même temps, ben, de tout découvrir cet univers-là. Et là, c'est parce qu'on va parler, oui, d'une exposition qui a lieu au Musée des Beaux-Arts, mais tu sais que...
C'est parce que ça a un lien aussi
avec
la musique.
Oui, parce que la salle Bourgie, tu es déjà allée à la salle Bourgie,
oui.
Ça fait partie du Musée des Beaux-Arts.
Moi, je vous vois... Puis Chantal me tutoie, mais ça me dérange pas.
Ah, oh, c'est ça, ben
ouais,
oui, mais
j'apprends
je sais.
À faire de la radio en vous voyant, qu'est-ce que tu
c'est
veux.
C'est parce que nous, on s'est connus
oui, on se connaît depuis longtemps.
Et puis, bon.
Mais à la radio, moi, je vous vois tout le monde, même Mathieu.
Mais c'est ça, la salle Bourgie, écoute, c'est vraiment un petit joyau acoustique. Vraiment, c'est une salle absolument fantastique qui a été tout rénovée. On sait que c'était une ancienne église, hein, l'ancienne église Erskine and American, qui a été désignée en 1998, dis-je bien, lieu historique d'intérêt national et qui a donné lieu à un immense chantier. Et cet endroit-là, ben, cette église-là avait de magnifiques vitraux qui ont été restaurés et qui font partie maintenant de la collection du Musée des Beaux-Arts, de la salle Bourgie. La salle Bourgie aussi qui accueille des instruments rares, qui a une collection d'instruments. En tout cas, là, je pourrais vous parler de tout ça. Là, évidemment, il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais c'est en septembre 2007 que l'homme d'affaires et mécène montréalais, Pierre Bourgie, a créé une fondation Arte Musica dont la mission première était le développement de la programmation musicale du Musée des Beaux-Arts de Montréal et principalement de la salle Bourgie. Alors, c'est comme ça qu'est né le projet de la salle Bourgie. Et lui avait confié la direction à Isolde Lagacé, la direction générale et artistique. Alors, elle s'est acquittée de sa tâche merveilleusement. Écoute, année après année, elle a vraiment conçu une programmation de haut vol. Et là, depuis 2022, c'est le pianiste Olivier Godin qui est maintenant le directeur artistique et Caroline Louis qui est la directrice générale et elle qui est passé par l'OSM notamment. Alors vraiment, Olivier Godin, qui est un pianiste très reconnu. Alors, on a restauré cette église-là et on en a fait une magnifique salle de spectacle, de concert. Alors voilà. Alors là, c'est ça. Donc, la programmation du Musée des Beaux-Arts, finalement, on la met parfois en lien avec justement des concerts. Alors là, c'est le cas pour Berthe Veil, c'est-à-dire, on doit dire ça comme ça. Alors, c'est la... Oui, une galeriste d'avant-garde.
Oui, c'est pas une peintre, là, mais c'était une passionnée
d'art
visuel, de
Alors,
peinture.
Elle a hérité, si tu veux, d'un petit local qui appartenait, je pense, à son oncle, en fait, qui exposait toutes sortes de bricoles. Et elle en a fait une galerie d'art.
Ça se passait où, là?
Ça se passait à Paris.
Okay.
Évidemment, tu sais, à cette époque-là, Paris est un centre de bouillonnement artistique sans précédent, là. Alors, elle va se dévouer corps et âme, comme on dit, à faire connaître les œuvres de jeunes peintres qui étaient, enfin, les Picasso, les Fauves,
les Modigliani,
c'est ça. Et puis, alors vraiment, elle va présenter des artistes sur un pied d'égalité aussi, quel que soit le sexe. Alors, elle a mis en valeur des femmes. Tu sais, les femmes, à l'époque, là, il y avait vraiment beaucoup de misogynie. Il y avait de l'antisémitisme également.
À l'époque et aujourd'hui, là, mais il y a quand même du progrès.
Tout à fait.
Mais même le nom de sa galerie, là, on ne pouvait pas savoir que c'était une femme qui était propriétaire.
Pas. Et puis, bon, ben, tu sais, son nom, Berthe Veil. Ouais. Alors, les peintres l'ont baptisée la petite mère Veil. Alors,
ah, c'est charmant.
C'est charmant.
Mais la galerie s'appelait comment? Il y avait juste son initiale, je crois.
Oui, ben c'est ça. Donc, écoute, honnêtement, je me demande si la galerie portait un nom comme tel. Mais,
ouais, mais
en fait, alors, c'est en 1901 qu'elle va ouvrir cette petite galerie. Elle va se concentrer sur les artistes émergents qui sont devenus les Picasso, les Matisse, que l'on connaît aujourd'hui, les Chagall, les Diego Rivera. Alors, on va voir effectivement des œuvres dans l'exposition de ces peintres-là. Alors, elle a eu énormément d'influence, autrement dit. Mais elle n'a pas été reconnue.
La galerie B. Veil.
Ah, d'accord,
ouais,
c'est ça.
Ouais.
OK. Et elle n'a pas été reconnue
de son
à sa
vivant?
Juste valeur. Bien sûr, non, c'est ça. C'est-à-dire que de son vivant, évidemment, elle, d'abord, elle était une femme d'affaires, en quelque sorte, mais peu prospère parce qu'elle donnait à peu près tout aux artistes quand elle vendait. C'était une marchande d'art, au fond, hein? C'est une galerie.
Elle ne gardait pas un gros pourcentage.
De toute façon,
ces artistes-là n'étaient pas vraiment connus, donc j'imagine
qu'ils
vendaient des jeunes. Des tableaux à 1 million de dollars.
Non, ben
et
c'est
plus,
ça, évidemment, c'était autre chose à l'époque, mais quand même. Alors, elle va se consacrer. Et puis, alors, la personne qui, justement, tu as un livre devant toi et cette dame qui s'est intéressée finalement à nous faire redécouvrir cette femme qui a été oubliée, c'est Marianne Lemorvan qui a réuni toutes les archives de cette dame-là et elle a été fascinée par le personnage. Écoute, elle avait un petit espace. Évidemment, les jeunes peintres allaient porter leurs œuvres et des fois, c'était à peine séché qu'elle faisait...
Elle suspendait. Elle accrochait à une corde à linge.
À une corde à linge et puis avec des pinces à linge. Alors ça a été un élément comme fascinant pour cette dame-là, Marianne Lemorvan, qui a réuni les archives et puis qui, justement, elle vient de sortir un nouveau livre sur cette galeriste.
Ah, c'est elle qui a écrit le livre?
Absolument.
Alors, j'imagine, trouver à la boutique du musée.
Oui, bien sûr.
La belle boutique du musée. Alors, on voit... Berthe Veil à la une.
Oui, tout à fait.
Drôle de visage quand même.
Oui, ben c'est ça.
C'était une peinture.
C'est sûr qu'elle a vieilli à un moment donné. Elle n'était pas toute jeune. Bon,
Ça ressemble à c'est un portrait un peu... elle a des lunettes, les cheveux très, très noirs, mais c'est un visage...
C'était une petite dame, là, toute petite, là, qui passait à peu près inaperçue, finalement.
Elle a les yeux de Jean-Paul Sartre,
puis, oui, t'as raison, avec les lunettes, tout à fait, ça lui ressemble. Mais évidemment, ça a été peint par des artistes modernes de l'époque, au fond, les artistes de l'époque. Mais,
oui,
alors,
il y avait une création.
Tout à fait. Ouais. Alors, c'est vraiment intéressant parce que, l'exposition, elle est intéressante et c'est fait en collaboration aussi avec cette exposition-là va voyager, va aller à Paris par la suite au musée de l'Orangerie. Alors, ce sera présenté en 2026. Et là, c'est en exclusivité, exactement. Alors, c'est intéressant. Puis, le Musée des Beaux-Arts, tu sais, Hélène, s'est donné une mission aussi de faire valoir les femmes, hein, de nous présenter des femmes artistes le plus possible. Et là, ben, ça rencontre tout à fait la mission aussi de quelqu'un qui a mis en valeur les artistes, mais qui, elle, n'a pas été beaucoup reconnue, a été tout à fait oubliée, d'ailleurs.
Alors, c'est à découvrir depuis le 10 mai jusqu'au 7 septembre.
Exactement.
C'est au Musée des Beaux-Arts.
Bon.
Et sinon,
en lien avec
cette exposition, il y a le concert dont vous parliez tantôt à la salle Bourgie qui s'intitule « Paris 1900 ».
Exactement, c'est mercredi prochain, le 21 mai. Alors, au tournant du 20e siècle, on l'a dit, la capitale française accueille, d'une part, oui, l'exposition universelle, donc c'est très effervescent, là. Ça devient un épicentre culturel majeur. Alors, les plus grands noms de la musique, de la peinture, de la littérature et de la danse vont s'y côtoyer. Alors, le concert va témoigner un petit peu de ça. Alors, c'est un beau rendez-vous avec des Debussy, des Poulenc. Alors, ça va être vraiment très intéressant.
Un petit bout de Poulenc, juste pour se faire plaisir, se mettre dans l'ambiance.
Exactement.
Paris 1900.
Oui.
Oui, c'était très, très beau, ça. Ça fait partie des pièces qu'on va pouvoir
ce sont des musiciens de l'Orchestre métropolitain qui seront là, réunis en quatuor. Alors, ça va être vraiment un beau concert à ne pas manquer. Et puis, vraiment, pour s'imprégner en même temps, je pense qu'on peut faire une espèce de combo, là, visiter l'exposition et puis aller au concert.
Alors, oui. Si vous êtes libre le 21 mai, évidemment.
Ben, bien sûr, oui. Alors, c'est à 19h30 pour le concert.
La salle est accessible.
Ben, c'est ça, la salle Bourgie, bien sûr, est accessible. Alors, l'entrée principale et le niveau parterre sont accessibles en fauteuil roulant. Et il y a des places qui sont spécifiques, qui sont réservées pour les gens qui sont...
Les personnes en situation de handicap.
Oui, tout à fait.
Qui ont des limitations.
Exactement. Et par contre, le balcon n'est pas accessible, mais ça, c'est pas... Bon, c'est sûr que si vous vous réservez à l'avance... Et tu sais, ce qui est intéressant, c'est que les billets aussi sont quand même accessibles. Écoute, pour ce concert-là, je pense que les billets sont autour de 48 $ pour le public général, mais ça tombe à 24 pour les 34 ans et moins.
Ah oui, moitié prix.
Alors quand même, tu sais, c'est toujours à peu près des prix comme ça. Tu sais, ça peut être 60 $
Pour un beau concert de musique classique fait par des professionnels.
Mais absolument. Et là, c'est vraiment les musiciens de l'Orchestre métropolitain qui sont réunis en quatuor à cordes. Alors, c'est Marjorie Tremblay au hautbois, Simon Aldrich, clarinette, Michel Bété, le bassoniste bien connu, Jennifer Bourdage au piano. Alors, vraiment, du Debussy, effectivement, Saint-Saëns, Poulenc, et un compositeur français qu'on connaît moins, là, que je connaissais moi-même très peu, Ange Flévier.
Ah oui, on va peut-être se laisser avec Ange tantôt. Et puis, Chantal, il y a justement une belle programmation 2025-2026 qui a été annoncée, ça fait quand même quelques semaines.
Oui, ça fait pas longtemps.
À la salle Bourgie. Est-ce que vous pouvez nous en dresser un portrait?
C'est ça, c'est qu'en fait...
En résumé.
Il y a toujours la série Les pianistes d'exception, alors vraiment de grands pianistes que l'on retrouve. Il va y avoir Marc-André Hamelin en duo avec Charles Richard Hamelin.
Oh!
Les deux ensemble, imagine-tu.
Est-ce qu'ils sont parents? Je pense pas.
Pas du tout.
Non, mais les deux ont un talent fou.
Ah oui, ils se respectent l'un l'autre beaucoup. Et puis,
deux générations.
Bien, absolument. Alors, tu sais, tu as toutes sortes de séries, mais évidemment, les concerts, il y a du jazz, hein, il y a de la musique du monde, il y a plein de choses comme ça.
Ah oui.
Il y a des récitals, mais il y a de la musique de chambre, il y a toutes sortes de concerts.
De genres musicaux.
De genres musicaux. Et tu sais, Isolde Lagacé, qui a été la directrice générale, elle avait initié à la salle Bourgie l'intégrale des cantates de Bach. Ils ont tout présenté pendant des années. Alors, c'était des orchestres d'ici ou d'ailleurs qui présentaient des cantates de Bach. Là, maintenant, c'est les leaders de Schubert, tu sais, qu'on présente.
Oui.
Alors, c'est ça. Donc, c'est la programmation d'Olivier Godin et de Caroline Louis, finalement.
Ils
sont deux, oui.
C'est
une direction à deux têtes. Alors, c'est dire que Isolde a fait beaucoup de travail, mais elle venait d'une famille de musiciens. Mireille Lagacé, la grande claveciniste, organiste, et son mari aussi. Alors, c'est toute une famille. Geneviève Soly, la maman de Arnaud, entre autres.
Juste Arnaud qui a bifurqué vers l'humour.
Qui a bifurqué vers l'humour, exactement.
Mais il jouait de la flûte avec son...
Ah oui, c'est ça. Il y avait quand même un bon fond musical. Alors, et puis évidemment, la programmation n'est pas terminée, là, la programmation 24-25. Demain, il y a une grande pianiste qui est là aussi, qui va jouer du Moussorgski, tableau d'une exposition.
Ah oui.
Alors, c'est ça, c'est que les orchestres ont déjà annoncé leur programmation 25-26, mais il y a encore de beaux concerts. Hein, à l'OSM aussi, tu vas avoir la finale avec Mahler, dirigée par Pailleri. Ça, c'est autour de... Attends, je lis la date de cette fin de saison. Là, je pense que c'est le 28 mai.
Oui. Alors, c'est le 28 mai?
Non, c'est le 28 mai.
Okay,
oui,
c'est
Chant de la Terre. Oui, c'est ça. Ben, t'as le 28, le 29, le 30. Alors, ça va clore la saison de l'OSM. Mais en tout cas, pour la salle Bourgie, il y a encore des beaux concerts à venir qui s'en viennent. Les Violons du Roi qui vont être encore là prochainement. Et puis,
j'imagine qu'ils ont un site Internet, si on va voir tous
les
détails.
Mais c'est ça, parce que là, en allant sur le site de la salle Bourgie, tous les concerts qui ne sont pas terminés vont apparaître.
Ouais.
Puis après ça, vous allez voir en septembre...
La saison.
Toute la nouvelle saison
2025-2026.
Qui repart. Alors, vraiment... Et tu sais, tu as un concert qui est toujours très, très, très populaire. Il faut réserver je ne sais pas combien de mois d'avance. Je me demande si ce n'est pas déjà complet. Mais enfin, c'est le Noël de Charlie Brown.
Oui.
Alors, qui est toujours présenté à la salle Bourgie pendant les fêtes. Alors, ils produisent jusqu'à, tu sais, quand même... pratiquement pas loin de 100 concerts. Mmh. Alors, c'est énorme, la programmation.
Il y en a aussi qui m'intéresse particulièrement. Mais il y a Charlie Brown, mais aussi un pianiste que je ne connais pas, mais qui va jouer du Bach. Puis on le compare à Glenn Gould.
Oui, OK. Ben c'est ça. Là, j'ai un petit blanc.
Mais de toute façon, Chantal, on va pas inviter.
Tout à fait.
On va se laisser avec Ange, comme
oui,
je l'ai dit tantôt.
Ange Flégier.
Flégier.
Voilà.
C'est sonate pour hautbois et piano. Merci beaucoup.
Ça a été un plaisir.
Passionné Chantal.
Ouais.
À la prochaine.